10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je vous retrouve avec un immense plaisir pour une nouvelle semaine à vos côtés, et puis à mes côtés, ma charmante camarade Ombline qui est elle aussi de retour. Bonjour ma chère, comment
allez-vous ? Bonjour Olivier, bonjour à tous, ça va bien, merci.
Alors comme vous le savez, nous parlons ici de vous, de ce que vous traversez, de ce qui vous anime ou vous révolte dans votre quotidien, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Un Français sur quatre déclare avoir été victime de propos ou de comportements discriminatoires au travail au cours de ces 5 dernières années. C'est le résultat d'une longue étude réalisée par Jacques Toubon, le défenseur des droits, et de l'Organisation internationale du travail. Les discriminations à l'embauche ou en entreprise à cause de ses origines, de sa religion, de son sexe, de son handicap ou de son apparence physique sont quotidiennes. Cela passe par des remarques, des décisions ou des actions insidieuses, fourbes ou parfois pleinement assumées. Il y a un an, Emmanuel Macron a annoncé que les 120 plus grandes entreprises françaises seraient soumises à un test anonyme pour détecter les cas de discrimination à l'embauche dans les 3 ans. Mais cette mesure peut-elle être efficace ? Comment lutter contre ces discriminations en entreprise ? L'égalité des chances existe-t-elle réellement ? Discrimination en entreprise, que faire ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et dès ce lundi, vous le savez, le standard d'Europe 1 est ouvert, 39, 21, 50 centimes la minute. Pour nous écrire, Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Manon sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Manon.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 25 ans et je vous appelle de Lège-Cap-Ferré en Gironde.
D'accord, je connais très bien. J'y ai passé toutes mes vacances d'enfance. Donc, vous avez bien de la chance, c'est une très belle région. Manon, il y a 2 ans, vous cherchiez un emploi et vous êtes tombée sur une annonce pour un CAP en boulangerie-pâtisserie. Comment s'est déroulé, avant toute chose, l'entretien téléphonique préalable que vous avez eu avec votre potentiel futur employeur ?
Bah, ça s'était vraiment très très bien passé. J'avais envoyé un CV, lettre de motivation par mail.
Oui.
Alors sur mon CV, il n'y a pas de photo. Donc ça s'est fait juste à la voix et ça s'est très très bien passé. Un monsieur très charmant, donc oui. Pas de soucis, très gentil.
Donc fort de cet entretien, vous avez été convoqué à un entretien donc, pour voir si cette embauche était possible.
C'est ça.
Et il vous est arrivé quelque chose que je qualifierais d'invraisemblable. Racontez-moi ce que vous a dit cet employeur lorsque vous êtes arrivé.
Alors, je suis arrivée et l'employeur m'a ouvert la porte de son bureau. Et quand il m'a vue, m'a regardée de haut en bas, a fait un pas en arrière alors je lui tendais la main pour lui serrer la main.
Oui.
Et il m'a dit « Ah, mais vous êtes grosse ?»«
Vous êtes grosse ?» Il vous a dit ça comme ça ?«
Vous êtes grosse, oui, oui. »
Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Vous deviez être abasourdi. Enfin, j'en suis moi-même scotché. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là ?
Et là, je me suis dit « Oula, mazette.
Mazette.
Qu'est-ce que c'est que ça ?»«
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cet homme ?» Donc, je me suis dit « Bon, ben... » Et en fait, à ce moment-là, j'étais très complexée, donc je faisais un régime et la seule chose que j'ai réussi à lui dire, c'est « Oui, mais je fais un régime !» Comme si c'était de ma faute, en fait.
Oui, ouais. Voilà. Vous êtes sentie obligée de vous justifier, carrément.
Limite de m'excuser, quoi.
Ouais. Vous
alors
dites...
Non.
Vous dites que cet homme vous a surtout fait des remarques donc, sur votre poids, plus que sur le poste hein, en lui-même. Hein. Essayez de m'expliquer comment ça s'est passé. Il essayait de vous culpabiliser ?
Mais tout l'entretien, en fait, ça s'est fait, en fait, pas par rapport au CAP vendeur en boulangerie,
oui.
Mais ça s'est fait sur mon poids, sur vis-à-vis des clients, l'image que vous renvoyez en étant grosse, c'est pas très bien pour l'entreprise. Voilà, vous allez rester bloqué à certains endroits dans la boulangerie, tellement vous êtes grosse, vous n'allez pas passer. Voilà, il m'a aussi dit, et ça m'a choquée, moi, j'ai une employée qui était grosse comme vous avant et je l'ai obligée à mettre un anneau gastrique. Elle ne voulait pas, mais maintenant, ça va mieux, elle me remercie.
Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Est-ce que vous étiez en capacité de répondre ? Parce que j'essaie de me mettre à votre place. Dans une telle situation, on doit être dans un état d'effroi. On a juste envie de partir, non ?
Bah, j'étais dégoûtée, mais après, je me suis dit, va jusqu'au bout de l'entretien, ne
Oui.
sois pas mal poli.
Oui.
Le problème, il vient pas de toi, il vient de lui. Et au cas où qu'il ait des contacts enfin, pour trouver du travail, je voulais pas avoir une mauvaise image et que ça se retourne contre moi.
Oui. En plus, qu'il faut, au-delà d'être grossier, qu'il vous fasse une mauvaise publicité. C'est ça que vous entendez?
Voilà, donc j'ai dit, allez, dis rien. Voilà, même en plus, je suis allée jusqu'au bout de l'entretien, alors que bon, je savais que je n'allais pas travailler pour lui. Voilà, donc il m'a dit, je vous rappellerai. Il ne m'a jamais rappelé, et tant mieux, parce que je n'aurais pas répondu.
Vous n'avez pas eu envie de partir, tout de même, lorsque vous entendiez tout ça. Vous avez vraiment tenu à aller jusqu'au bout de cet entretien. Mais en ressortant, comment vous avez réagi à tout ce qui venait de vous arriver?
J'étais en colère.
Vous étiez
très en colère. Je me suis dit,
ouais.
Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? On est en... Bon, je ne sais plus en quelle année, c'était il y a deux ans, trois ans, je ne sais plus trop. Mais c'est quoi ça? C'est ça les gens, c'est ça la mentalité. Ben, dis donc.
Alors, l'Eige Cap Ferret a beaucoup changé. Hein. Je vous parlais de mes vacances en enfance. Et c'est vrai que j'y suis retourné il y a très peu de temps. Et c'est vrai que c'est un peu considéré comme le Saint-Tropez hein, du sud-ouest, là, près de Bordeaux. Est-ce que vous pensez que cet homme, en fait, voilà, il était sur des critères bien précis par rapport au poste qu'il demandait?
Quand j'ai postulé, c'était pas sur l'Eige Cap Ferret à ce moment-là.
D'accord, c'était ailleurs. D'accord.
C'était à Mérignac.
C'était à Mérignac, d'accord. Alors, cela a un nom aujourd'hui, hein, vous le savez sans doute, cela s'appelle la grossophobie. Est-ce que vous avez pensé à vous retourner contre lui parce que vous aviez le droit?
Bah, tout le monde me l'a dit, mais t'as pas le droit, enfin, t'as le droit, te laisse pas faire. Fin... À moi, franchement, ça me fatigue plus qu'autre chose. Après, j'aurais peut-être dû le faire, pas forcément en pensant à moi, mais en pensant aux autres à qui ils pouvaient le faire aussi.
Bien sûr.
Mais,
à tous les autres qui ont suivi, non? Tous les autres.
Oui, ouais. Mais après, ouais. Après, moi, je me suis dit, bon, c'est fatigant de se lancer là-dedans et tout. Mais oui. Là, avec du recul, ça me le referait. Là, je ne me laisserais pas faire, par contre.
Ce n'était pas la première fois que vous étiez discriminée en raison de votre poids? Ça vous était déjà arrivé?
Oh bah, j'ai toujours été discriminée à propos de mon poids parce que je suis ronde depuis que je suis toute petite. Enfin, j'ai toujours été ronde.
Oui.
Et dès le collège, ça a été terrible. J'ai compris, toi, tu seras jamais normale. Quoi. Ouais. Alors qu'en fait, c'est eux qui ont un problème, c'est pas moi.
Bien
je suis
évidemment.
Normale, moi.
Bien évidemment. Je vous le confirme, Manon. Vous êtes tout à fait normale.
Et, oui.
Et il faut absolument parler de ce type d'épisode parce que si personne ne dit rien, eh bien on continuera à vivre ce type d'événement. Il faut que ceux qui ont voilà, cette mentalité changent. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage si édifiant, Manon, cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, vous avez trouvé du travail depuis?
Je suis actuellement enfin à recherche d'une formation que j'ai trouvée, j'attends qu'elle débute.
D'accord. Eh ben écoutez, je vous souhaite plein de courage et puis vous avez l'air d'en être rempli de courage, donc ça va le faire.
C'est gentil.
Dans quelques instants, nous serons avec Leïla, à seulement 20 ans et pourtant encore étudiante. Elle subit de la discrimination raciale dans presque tous ses jobs alimentaires.
Europe 1. Discrimination raciste, sexiste, homophobe, par l'âge, selon l'état de santé, votre physique, sur votre lieu de travail, vous connaissez, vous nous racontez jusqu'à 16h30, 21. Entre 15h et 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix, le 3921, pour nous appeler sur Twitter, pour nous écrire hashtag Europe 1. Nous parlons aujourd'hui de la discrimination en entreprise, comment s'en protéger.
Et dans la première partie de cette émission, nous avons eu Manon qui nous expliquait qu'après un entretien préalable à une embauche, elle s'était rendue à son entretien donc direct, en face à face avec son patron. Et j'ai envie de dire qu'elle avait eu le courage de rester malgré cette réflexion de cet homme qui lui dit « mais vous êtes grosse ». Un entretien qui s'était déroulé uniquement autour du fait que Manon était ronde et qu'il était impossible pour cet homme visiblement d'accepter une personne qui avait des formes. Nous sommes maintenant avec Leïla, avec qui nous allons parler aussi de cette discrimination, une toute autre je pense. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Leïla.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 20 ans et je viens de Lyon.
D'accord. Alors, vous êtes étudiante, mais vous travaillez régulièrement pour différentes entreprises pour vous faire un petit peu d'argent. Un jour, vous êtes allée à un salon pour étudiants, justement, où vous avez rencontré une recruteuse d'une grande enseigne de vêtements dont on ne nommera pas. Vous vouliez être vendeuse. L'entretien s'est-il bien passé au départ ?
Oui, tout à fait, ça s'est très bien passé parce que d'une part, j'avais déjà eu une expérience en vente chez eux l'été précédent.
Oui.
Et d'autre part, parce qu'ils étaient intéressés par d'autres de mes compétences pour me faire travailler en d'autres postes que ceux de vendeuse, donc notamment en cantine, etc., au sein de l'entreprise. Mm-hmm. Donc tout se passait bien au début.
Tout se passait bien au début, mais juste avant que vous partiez, je crois qu'elle vous a raconté quelque chose. Racontez-moi.
Oui, alors en fait, après plusieurs remarques sur les tenues que devaient aborder les vendeuses, etc., des remarques avec lesquelles j'étais d'accord et je connaissais le fonctionnement de l'entreprise, elle s'est permis, un peu sèchement d'ailleurs, de me faire remarquer que par contre, mes cheveux, ça n'allait pas du tout. Enfin, en tout cas, ma coiffure n'allait pas du tout, que c'était pas du tout professionnel et que si je travaillais pour eux, il allait falloir changer ça. Moi je suis française, mais ma mère est née en Algérie.
Oui.
Et du coup, effectivement, j'ai les cheveux bouclés. Et puis en plus, il avait plu ce jour-là, donc les cheveux gonflent et tout, avec des kiffes un peu humides. Mais sauf que j'ai un carré et j'avais pas de coiffure particulière en fait.
Bon,
du coup, j'ai été très choquée.
Vous avez été surprise, je suppose. Vous savez vous parlez à un confrère, hein, capillaire, parce que vous savez que ma coiffure m'a souvent, en tout cas, voilà, après coup, j'ai entendu que ma coiffure m'avait souvent joué des tours. Mais jamais en face-to-face comme ça. On n'a jamais osé me dire... vous n'avez jamais donc été rappelé hein, par cette charmante dame. Mais vous avez subi encore cette discrimination dans un centre aéré où vous avez travaillé. Car je crois que votre supérieur ne vous a jamais appelé par votre prénom. Expliquez-moi ça.
Oui, alors en fait, ça c'était mon premier job étudiant. Donc je travaillais, je faisais la cantine dans ce centre aéré et j'étais la seule personne racisée, donc c'est-à-dire victime de racisme,
ouais.
Dans l'entreprise et dans le centre aéré. Et ma boss, et je sais pas vraiment, j'ai jamais su vraiment pourquoi, si elle le faisait exprès ou pas, mais n'a jamais réussi à m'appeler Leïla et elle m'a appelée pendant très longtemps Laetitia. Je sais pas, peut-être que ça semblait plus simple. Et puis elle a fini par tester des trucs comme Laïla ou enfin. À chaque fois, elle écorchait mon prénom, c'est une catastrophe. Et j'ai jamais osé lui dire. Et j'ai fait mes un an là-bas, puis je suis partie sans que jamais personne n'ait prononcé mon prénom correctement.
Oui, ce qui paraît totalement incroyable. Outre cette expérience, est-ce que vous avez constaté que dans chacun des jobs que vous avez pu faire, Leïla, vous avez été la seule à être victime de racisme ?
Alors, dans tous mes jobs étudiants, sauf quand je travaillais en centre d'appel téléphonique, où là, pour le coup, c'était plutôt, il y avait en fait pas vraiment de blanc, en fait,
ouais.
Et on se rendait vite compte qu'on était là parce qu'en fait, on ne nous voyait pas, qu'on nous entendait simplement à la voix. Pour le coup, là, on avait du racisme plutôt de la part des personnes qui nous appelaient en disant, mais de toute façon, vous êtes d'une plateforme téléphonique en Tunisie ou je sais pas où,
ouais,
alors que
ouais.
Pas du tout.
Mm-hmm.
Mais oui, j'ai travaillé dans des salles de spectacle, dans des. Dans les centres aérés, dans plein de boîtes différentes. Et à chaque fois, c'est soit des remarques sur... je me souviens d'une collègue, d'ailleurs, dans ce magasin de luxe qui m'avait dit « Mais moi, de toute façon, j'aime pas les Arabes, etc. etc. » Puis je lui parlais de mes vacances à Porto. Et juste après, j'avais rien dit, j'avais pas réagi. Et elle m'a dit « Ah, mais toi, t'es portugaise, non ?» Et j'ai dit « Bah non, dommage, je suis arabe. » Et s'en est suivi un très grand silence.
Mais oui.
Et j'ai bien souvenir que la plupart de mes collègues m'avaient pas reparlé après ça. Donc...
Et pourtant, vous n'avez que 20 ans. Ce que je me disais, c'est j'ai comme l'impression tout de même que votre génération, hein, les jeunes de votre génération, sont nettement moins racistes. Il y a quelque chose, en tout cas, qui montre que cette génération est plus ouverte d'esprit. Et pourtant, vous me dites le contraire. Ça n'est pas du tout votre impression.
Je ne sais pas si c'est une question de génération parce que il y a quand même tout un. On n'est pas recruté par des gens de notre génération en règle générale.
Ouais,
à 20 ans,
ça,
personne
ouais.
n'a sa boîte.
Mm-hmm.
Après, peut-être que ma génération est plus ouverte, mais celle qui nous paye, c'est celle d'avant.
Ouais.
Et pour le coup, depuis les années 2000, 2010 et cette mise en avant de l'immigration comme étant liée à la délinquance, oui. Mon Dieu, l'islam, c'est la fin de tout. En fait, c'est très difficile d'être d'origine, d'être française, oui, d'origine oui. immigrée, et même d'avoir l'air maghrébin, parce qu'en fait, on nous reproche d'être musulmans, on nous reproche plein de choses, alors que moi, personnellement, je ne le suis pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui nous reviennent dans la face, alors qu'à la base, on n'avait pas demandé grand-chose.
Ouais, puis vous n'y réfléchissez même pas vous-même. Je suis sûr que c'est quelque chose qui ne vous passe même pas par l'esprit. Vous dites que vous avez l'impression de devoir toujours compenser, de vous justifier, d'être bien habillé, comme si vous deviez redoubler d'efforts par rapport aux autres. C'est votre réalité, ça ?
Bah, écoutez, c'est-à-dire que quand j'avais 14 ans, une fois en sortant d'un entraînement de danse, donc je faisais du hip-hop à l'époque, je suis sortie en jogging et on m'a abordé 2-3 fois pour me demander si je vendais du shit. Ouais. C'est-à-dire que cette expérience m'a marquée, j'ai plus jamais remis de jogging en public et à chaque fois que je vais à un entretien d'embauche, je vais discuter avec une amie de mes parents qui est arabe et à chaque fois on discute de la tenue et on dit ok, une chemise c'est bien, etc. c'est bien. Et maintenant, et je le faisais déjà avant, mais là maintenant d'autant plus, ben, je fais attention à mes cheveux, je sais pas trop quoi en faire, etc. C'est un vrai casse-tête. Parce qu'en fait, il faut montrer pas de blanche, il faut montrer qu'on n'est pas comme les autres arabes, entre guillemets, alors que moi, j'ai aucune volonté de faire ça, mais malheureusement, je veux dire, le marché du travail est suffisamment dur et violent comme ça, on va pas en plus se mettre en danger sur ces questions-là. Et j'ai de la chance d'avoir un nom de famille français, c'est une des plus grandes chances que j'ai, c'est qu'il y a que Leïla et puis ma tête qui puissent induire que, je suis pas tout à fait d'ici, quoi.
Mmh. Bon, en tout cas, restez comme vous êtes, parce que déjà, votre voix est pleine de vie, pleine d'intelligence et il faut rester comme on aime être, Leïla. Et puis, je sais que vous avez des partiels, hein, que vous rentrez en partiel bientôt, donc je vous souhaite plein de courage pour une très belle et très longue carrière, car vous verrez, les choses changeront, le monde est en marche vers du mieux. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Dans quelques instants, nous allons accueillir Christophe Radé. Il va nous parler de cette discrimination. Il est spécialiste en droit du travail, professeur à la faculté de droit de Bordeaux. Et il est auteur de l'ouvrage « Discrimination et inégalité de traitement en entreprise » disponible aux éditions Liaison.
Europe 1. Ça vous parle ce qu'a vécu Leïla ? Vous avez été confrontée à de la discrimination sur votre lieu de travail. Lorsque vous avez cherché un emploi, vous nous racontez votre histoire au 39-21, 50 centimes la minute. Je vous rappelle que vous pouvez également nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Par la couleur de votre peau, votre sexe, votre physique, vos origines, votre religion, vous avez été victime de discrimination au travail ou à l'embauche. Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Une discrimination bien établie dans ces témoignage que nous ont donné Manon, Leïla, deux jeunes filles. C'est assez perturbant d'entendre combien ces jeunes femmes rentrent comme ça dans des premières expériences dans le monde du travail. Il faut vraiment avoir du courage pour essayer de continuer à chercher du boulot. On va en parler justement avec Christophe Radé, qui est spécialiste en droit du travail et professeur à la faculté de droit de Bordeaux. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors, vous avez publié en 2011 l'ouvrage « Discrimination et inégalité de traitement en entreprise » disponible aux éditions Liaison. Dedans, vous dites que tous égaux, tous différents, devraient être la nouvelle devise de notre République sociale. Vous pouvez me dire exactement, développer ce que vous voulez dire par là ?
Oui, alors ce qu'ont montré les témoignages qu'on a entendus, c'est qu'effectivement, au quotidien, de manière assez banale finalement, des Français qui sont censés être égaux devant la loi et devant la République subissent des discriminations permanentes dans l'accès aux stages, dans l'accès à l'emploi. Et donc l'égalité, ça n'est pas simplement de dire à tous les citoyens français qu'ils ont les mêmes droits, c'est aussi mettre en œuvre concrètement cette égalité de traitement au quotidien et de permettre à ceux qui sont issus de la diversité ou à ceux qui présentent des caractéristiques personnelles particulières, oui, d'avoir les mêmes chances que les autres.
Mmh. Et lorsqu'on entend Manon, Leïla nous raconter leur histoire, on pense bien évidemment, comme je le disais en préambule, à ce que notre président Emmanuel Macron a annoncé concernant les 120 plus grandes entreprises françaises qui devraient être soumises à des tests anonymes pour détecter les cas de discrimination à l'embauche dans les 3 ans. Cette mesure, d'abord, est-ce qu'elle est mise en pratique vraiment et est-ce qu'elle vous paraît efficace à terme ?
Alors, efficace dans les grandes entreprises, certainement, mais le problème, comme on le voit avec Manon et avec Leïla, n'est pas dans les grandes entreprises. En réalité, le problème est dans les toutes petites structures,
oui,
dans les entreprises quasiment unipersonnelles, où l'employeur va faire rentrer une candidate dans un bureau et va les yeux dans les yeux, lui indiquer qu'il n'aime pas les personnes qui sont en surpoids ou qui ont une couleur de peau ou une couleur de cheveux qui ne lui convient pas. Les grandes entreprises, elles ont des moyens de former leurs cadres, leurs managers. Elles ont les moyens aussi, avec des représentants syndicaux, avec les élus du personnel, de veiller aux politiques d'embauche et de recrutement et de faire très attention à ce que la diversité soit respectée dans l'entreprise. La difficulté, c'est effectivement pour les petites structures où les salariés se retrouvent en face à face singulier avec leur employeur ou leur futur employeur et en réalité n'ont aucun soutien dans l'entreprise pour faire valoir leurs droits. Donc cette mesure ne réglera pas le problème de Manon ou de Leïla au quotidien, malheureusement.
Alors, bien évidemment, cette mesure, on l'aura compris, ne réglera pas au niveau des grandes entreprises les discriminations qu'ont subies Manon et Leïla. Je prends l'exemple de Manon. Quel droit avait-elle à ce moment-là? Est-ce qu'elle pouvait attaquer pour grossophobie cet employeur? Est-ce que c'était sa parole contre la sienne? Est-ce que ça vous paraît compliqué d'avoir des droits devant ce type de situation pour des jeunes femmes comme Manon?
Alors c'est très compliqué parce que dans un certain nombre d'hypothèses, les employeurs, de manière d'ailleurs volontaire ou accidentelle, laissent transparaître le motif discriminatoire d'un refus d'embauche ou de stage.
Oui.
Mais dans un certain nombre d'hypothèses, c'est parole contre parole, c'est-à-dire que si vous allez devant les prud'hommes pour un refus discriminatoire d'embauche, et si on reprend l'exemple de Manon, on est sur une discrimination fondée sur l'apparence physique, donc ça rentre tout à fait dans les critères de sanction par le code pénal.
Oui.
Elle va se retrouver dans parole contre parole, et si elle n'a aucun élément supplémentaire pour accréditer son allégation de départ, elle aura les plus grandes difficultés. Tout le monde la croira, je pense que chacun imaginera assez facilement que ça a pu se passer.
Oui.
Et les tribunaux ont besoin de certitudes, pas simplement de ressenti. Donc la difficulté, elle est là, c'est qu'elle se retrouve démunie. Donc il y a des moyens qui existent, hein, le testing par exemple.
Oui.
Les associations qui luttent contre notamment les discriminations raciales peuvent mettre en place un certain nombre de moyens collectifs pour notamment envoyer un certain nombre de CV avec juste une variable qui est celle que l'on cherche précisément à protéger. Mais c'est vrai que ça demande de la part de ceux qui subissent ces discriminations au quotidien de l'énergie, du temps, et on le voit, ce sont des jeunes qui généralement sont dans une forme de résignation parce que malheureusement ils savent que dans le commerce notamment ou dans les services, l'apparence physique est importante et donc ils préfèrent passer à autre chose sans forcément aller devant les tribunaux.
Et dans le cas de Manon, très précisément, j'entendais que voilà, elle n'est pas allée jusqu'au bout parce que elle s'est dit attaquer cet employeur, aller devant les prud'hommes, c'est de la colère, hein, parce que voilà, parler de quelque chose, d'une humiliation, et elle n'avait pas envie de s'infliger plus ça, elle qui était dans une lutte déjà pour perdre du poids. Je suppose que elle s'est dit qu'il valait mieux passer à autre chose. Vous évoquiez justement les CV. On parle beaucoup du CV anonyme. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est à double tranchant, cette idée de CV anonyme?
Alors, ça avait été tenté à une époque, d'abord dans le cadre d'une expérience de quelques entreprises, et puis ensuite la loi avait essayé de la mettre en place, et puis finalement la mesure a été abandonnée parce qu'elle était difficilement praticable. Là encore une fois, c'est une bonne idée a priori,
oui.
Mais c'est une pratique de recrutement qui suppose là encore une fois des moyens assez considérables pour anonymiser les CV, pour les traiter de manière anonyme. Et puis ça protège contre une première catégorie de discrimination qui sont les discriminations par refus de convoquer les candidats lors de l'entretien.
Oui.
Mais on le voit à la fois avec l'exemple de Manon et de Leïla, les comportements discriminatoires ne se sont pas ici vérifiés au moment de convoquer les candidats pour l'embauche, mais au moment de les recevoir.
Mmh.
Donc on va effectivement réussir à régler un certain nombre de problèmes, mais malheureusement, un certain nombre d'entre eux ne le seront pas. Donc,
Christophe Radet, vous restez en ligne avec nous. On va continuer à parler de la discrimination, notamment de la discrimination positive qu'on abordera dans le reste de cette émission. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit du travail, professeur à la faculté de droit de Bordeaux et auteur de l'ouvrage « Discrimination et inégalité de traitement en entreprise ». Dans quelques instants, nous serons avec Jolie. Elle est originaire du Gabon et c'est en arrivant en France qu'elle a été confrontée à ses premières discriminations.
Et il y a Bintou, 39 ans, qui témoigne au 39-21. « Je suis une femme, je suis noire, je suis musulmane, j'ai moins de 40 ans. Dire que j'ai redoublé d'efforts pour plus que les autres est un euphémisme. J'ai dû sans arrêt faire mes preuves, c'est très injuste. » Mais on n'a pas le choix, il faut faire avec si on veut évoluer dans notre carrière.
Europe 1.
Comment lutter contre la discrimination en entreprise? On a envie de vous entendre également au 3921. Nous parlons de la discrimination en entreprise, discrimination ethnique liée à votre physique. Venez nous raconter votre histoire au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Jolie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour Jolie. Quel joli prénom. On a dû vous la faire déjà, mais je ne fais pas du tout d'humour. C'est quand même un prénom merveilleux que de porter ce prénom. Peut-être qu'elle n'est pas...
Et je vous dis merci.
Ah ben, eh bien, écoutez, je le prends en plein cœur. Alors, justement, on va attaquer votre témoignage. Peut-être qu'elle n'est pas blonde aux yeux bleus. C'est par cette phrase, dite à propos de vous, que l'on pourrait débuter votre histoire. Comment et pourquoi en est-on arrivé à vous dire une telle phrase, Jolie ?
Alors donc, je me présente, Jolie Andrès. Et pourquoi m'a-t-on dit je ne suis pas blonde aux yeux bleus ? C'est qu'en fait, je suis rentrée dans un grand groupe du 440 pour effectuer un stage. Et à l'issue de ce stage, ma candidature a été retenue. Donc, j'ai postulé. En attendant d'avoir un poste, on m'a proposé donc une solution d'intérim qui aurait dû être provisoire. Sauf que cette solution d'intérim a duré quasiment 10 ans. Et alors que j'étais toujours en poste, je postulais un petit peu à droite à gauche.
Oui.
Et l'un des recruteurs que j'avais rencontré m'avait demandé de lui donner des références. Donc, ce que j'ai fait en le mettant en relation avec mes managers du moment.
Oui.
Et là, ils ont demandé à mon manager ce qu'il pensait de moi. Donc, il leur a dit tout le bien qu'il pensait de moi. Et en terminant, il leur a demandé, Jolie paraît tellement bien, compétente, pourquoi ne l'avez-vous pas embauchée? Et là, il a répondu, je cite, « Peut-être n'est-elle pas blonde aux yeux bleus ?»
Oui, c'était une manière élégante, se voulant élégante, mais une remarque tout à fait raciste. Hein. C'est comme ça qu'on peut la traduire. Vous parlez de ces 10 années, Jolie, où vous avez enchaîné des contrats d'intérim et précaires, pendant que des confrères et des consoeurs, eux, de couleur blanche, étaient embauchés. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Parce que ça doit être extrêmement violent.
Alors, c'est extrêmement dur parce qu'en fait, on est plusieurs à commencer en intérim avec les raisons qu'on sait bien. Les budgets sont très restrictifs, on ne peut pas embaucher pour le moment. Et puis souvent, l'intérim est utilisé un petit peu comme une période de test. Donc moi, en tout cas, je le vis comme ça.
Oui.
Et sauf que après toutes les années, le temps passe. Quand je demande s'il y a des opportunités pour moi, il n'y en a pas. Sauf que les collègues qui sont venus en même temps que moi avec le même statut, finalement m'appellent au fil de l'eau et me disent « Jolie, tu sais quoi, je viens de signer mon CDI ». Alors là, je suis contente pour ces personnes. C'est en l'occurrence une femme, j'étais assez contente pour elle. Sauf que moi, j'utilisais cet argument pour repartir voir ma direction et demander « Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de poste pour moi ?» Tandis qu'elle, elle se fait embaucher. Et là, à ce moment-là, on me disait « Tu sais, c'est une question de timing, c'est une question de budget ». Alors, évidemment, je reprenais l'argument en disant « Mais on est arrivé au même moment, donc quel est le timing que j'ai loupé ?»
Oui.
Mais donc, voilà.
Bon, vous étiez confronté aussi au plafond de verre, je crois. Vous avez été confronté. Alors, je rappelle ce que c'est que le plafond de verre, c'est le salaire d'un homme qui est plus élevé au même poste que celui qu'une femme. Hein.
À compétence égale, à formation égale,
ouais.
À poste égal. Donc, on se retrouve avec ce qu'on appelle un plafond de verre, un plafond invisible, une paroi qu'on ne voit pas, mais qu'on n'arrive pas à dépasser.
Leïla nous disait qu'elle devait constamment redoubler d'efforts pour obtenir ce qu'elle voulait lorsqu'elle travaillait. C'est ce que vous avez toujours ressenti ?
Oui, j'ai toujours ressenti. Alors moi, je l'ai pas mal vécu parce que je suis d'origine donc africaine et mon père qui avait prévu pour moi un destin tout tracé dans mon pays d'origine, le Gabon, m'avait dit une fois que je lui ai annoncé que je souhaitais vivre en France, il m'avait dit « En France, tu ne seras qu'une immigrée et tu n'auras jamais un véritable emploi
».
Alors, j'avais ces deux phrases en tête et je m'étais donc dit « Donc, il faudrait que je redouble toujours d'efforts, que je fasse plus, mieux et que je prouve plus presque, j'ai envie de dire, un Gaulois natif. Et donc, moi, ça ne me dérangeait pas, sauf qu'à un moment donné, ben, on a beau travailler plus, sans forcément gagner plus, on a beau faire de meilleurs efforts et être toujours là, et en fait, finalement, on se rend compte que ce n'est pas suffisant pour pouvoir être reconnu.
Bon, mais tout de même, Julie, à force de courage, hein, de courage dédoublé, vous avez dû vous battre et vous avez fini quand même par décrocher un CDI dans l'entreprise Engie. Comment est-ce que vous vivez ce CDI comme un soulagement, comme une victoire, comme une fierté? Je repense à ce que vous disait votre père, en fait. Cette phrase, elle doit résonner aujourd'hui.
Absolument, elle résonne très très fort en moi. Parce que Engie n'était pas forcément la société vers laquelle je me destinais. Hein. Moi, j'étais tombée amoureuse comme on tombe amoureuse d'une première relation, du premier groupe dans lequel j'avais commencé à travailler. Et j'espérais vraiment pouvoir y faire carrière. Et en fait, quand je suis rentrée chez Engie, ça sonnait comme la fin d'une histoire. Ça a mis comme un terme à toutes ces années de précarité, où là, j'étais enfin reconnue. Et là, j'étais enfin appréciée, entre guillemets, hein, toujours entre guillemets, parce que même chez Engie, où je me sens bien et où je dois dire que j'ai plutôt la chance d'être reconnue dans ce que je fais, il y a quand même quelques individus à droite, à gauche, hein, parce que n'oublions pas que nos organisations sont avant tout portées par des hommes, avec leurs faiblesses. Il n'en demeure pas moins que je sente quelquefois qu'il faille que je fasse plus, mais bon, entre toutes ces années, le temps a passé, on acquiert aussi un peu plus de maturité, donc voilà, ça
aide. Et puis,
aussi.
J'ai envie de vous dire qu'on acquiert aussi, sûrement, je parle à votre place, mais on acquiert cette capacité à redoubler d'envie, de courage, et qu'on est porté par cette fierté. Avant de vous quitter, je dois vraiment souligner que votre livre intitulé « À la conquête du bonheur professionnel » est disponible aux éditions Le Livre Actualité, est un livre vraiment exemplaire pour tous ces jeunes qui sont victimes de discrimination. Ils pourront y voir combien vous avez donc redoublé de courage, combien vous vous êtes mis vraiment à vous battre et comment vous êtes arrivé à vos fins. C'était important pour vous de laisser cette trace, et cette trace, elle est importante, elle est dans ce livre. Ce livre s'appelle À la conquête du bonheur professionnel, disponible aux éditions Le Livre d'Actualité, et je le conseille vraiment à toutes ces personnes qui peuvent être découragées aujourd'hui de lire votre bouquin. Merci mille fois, Julie, d'avoir participé à cette émission par votre joli témoignage aujourd'hui. Et puis, dans quelques instants, nous parlerons avec Asma. Elle a été discriminée en entreprise à cause de son voile. Et aujourd'hui, la justice, on va le voir, lui a donné raison.
Anessa a 41 ans et témoigne au 39-21. Elle nous raconte « Je suis directrice d'agence intérim ». On fait face à la discrimination au quotidien. Je démarche les entreprises tous les jours. On se cache encore. On préfère les BBR, les bleus, blancs, rouges. On est obligé d'envoyer des CV anonymes.
Europe 1.
Vous avez été victime de discrimination lors d'un entretien d'embauche sur votre lieu de travail. Comment avez-vous réagi? On vous écoute, vous aussi, au 39-21. Sur Europe 1, on évoque aujourd'hui la discrimination en entreprise. Quel comportement doit-on adopter quand on fait l'objet de sanctions disciplinaires ou d'un licenciement à cause de son origine, de son orientation sexuelle ou de ses opinions politiques? Le 39-21, pour nous appeler, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Je suis toujours surpris d'entendre ce type de témoignage aujourd'hui, en 2019, entendre cette discrimination à l'encontre de gens qui ont du talent, ont des études, des diplômes et qui affrontent une violence particulière qui est cette discrimination. On va justement en parler avec Asma. Bonjour Asma, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Asma?
Alors j'ai 33 ans et je vous appelle de la région parisienne.
D'accord. Alors vous êtes ingénieur en informatique, Asma.
Oui.
Dès la fin de votre parcours scolaire, vous avez été repéré puis embauché en stage par une entreprise du fait de vos compétences. Votre voile n'était pas un problème au départ, je crois. Hein,
alors ça s'est fait un peu progressivement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé en stage sans voile, puis je l'ai mis progressivement et j'ai été donc c'était un stage de pré-embauche. J'ai été ensuite embauchée en CDI avec mon voile.
Oui, alors, donc, pardonnez-moi de vous interrompre, Asma, mais juste, je pense que c'est un détail important pour tous ceux qui nous écoutent. Lorsqu'on dit un voile, qu'est-ce que c'est? C'est un foulard qui recouvre vos cheveux?
Oui, simplement mes cheveux, voilà. Oui.
C'est important que les gens le sachent, parce qu'on fait toute une histoire d'un voile, sauf que ça n'est que quelque chose sur les cheveux. C'était important d'avoir cette précision.
Oui, bah c'est très bien que vous en parliez. J'en parlerai plus tard aussi.
D'accord. Vous avez finalement eu une promotion, donc, mais très vite, on vous a dit que ce foulard posait problème. En quoi et comment avez-vous réagi à ce moment-là?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais ce qu'on appelle au forfait, donc au siège de l'entreprise pour des clients,
oui.
Que j'avais principalement au téléphone et par mail. Je me suis rendue un jour à une formation, donc il fallait que je forme les clients. Au retour de cette formation, on m'a informé qu'on était pleinement satisfait de ma prestation, mais que la prochaine fois, il faudrait qu'il y ait quelqu'un sans voile. Et à la suite de ça, j'ai été directement convoquée en entretien préalable dans le licenciement.
Oui, parce que vous avez refusé.
On m'a posé un ultimatum à ce moment-là.
Ouais.
C'était soit d'accepter d'enlever mon voile quand je me rendais en entreprise, et soit d'être licenciée.
Alors,
j'ai refusé.
Je dois préciser tout de même aussi quelque chose d'important, c'est que cela vous a valu un licenciement pour faute grave. Faute grave.
Hein. Oui.
Je le précise parce que mettre donc un foulard sur les cheveux pour ses employeurs, c'était une faute grave.
J'ai eu le droit à une très belle lettre de licenciement où on dit qu'on est absolument satisfait de mes compétences et de mon travail,
oui.
Mais que dans la mesure où des clients s'étaient plaints et que je refusais cet ultimatum, j'étais licenciée pour faute grave quasiment du jour au lendemain.
Mmh. Alors, vous êtes allé jusqu'au tribunal des prud'hommes. Vous avez gagné. C'est une fierté pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné?
Clarifier les choses, ça s'est passé comme ça. Il y a eu plutôt 11 ans de procédure,
oui.
Avec beaucoup d'allers-retours. C'est allé jusqu'au prud'homme, la cour d'appel, la cour de cassation, puis la cour européenne et enfin la cour d'appel. Donc ça a été une très longue procédure et assez difficile à vivre.
Oui.
Il faut savoir que j'ai vécu ça en tout début de carrière, très jeune et je pense encore très malléable.
Oui.
Et c'est quelque chose qui est très dur à vivre à ce moment-là où du jour au lendemain, on se fait jeter d'une entreprise pour quelque chose qui ne devrait pas être important.
Oui.
Pour rebondir sur votre remarque précédente, je me rappelle qu'à mon entretien de licenciement, on m'a parlé de tchador, pour vous dire l'amalgame.
De tchador, ce qui n'a rien à voir.
N'a absolument rien à voir. Et pour donner justement la mesure des amalgames qui avaient été faits à l'époque.
Oui.
Après 11 ans de procédure, mon licenciement a été considéré comme nul.
D'accord. Ce qui fait que ça donne quoi, au bout du compte? Vous avez gagné?
Oui, j'ai gagné. Et ça a permis à la Cour européenne de clarifier les choses par rapport au port du voile en entreprise.
Alors, je vais me retourner vers Christophe Radet, qui est spécialiste dans les droits du travail. Hein. Depuis 2017, Christophe Radet, une entreprise privée peut interdire le port de signes religieux à des salariés sous certaines conditions, je précise. Comment en est-on arrivé à cela? Et c'est inscrit où dans ce cas-là? Dans le règlement de l'entreprise? Où est-ce qu'on peut trouver ce type de choses?
Alors, la loi de 2016, qu'on appelle la loi El Khomri, a effectivement permis à l'entreprise qui se dote d'un règlement intérieur d'inscrire dans ce règlement intérieur effectivement une clause dite de neutralité, c'est-à-dire une clause qui permet de restreindre l'exercice de la liberté d'expression religieuse,
oui.
Pour un motif légitime. Alors, motif légitime, la discussion va s'engager évidemment. On pensera à des questions d'hygiène, par exemple. Hein, ça a été jugé par la Cour européenne à propos du voile pour les personnels de santé. Mais ça peut aussi être lié à l'activité de l'entreprise, au fait que l'entreprise a une clientèle qui est cosmopolite. Et donc, elle ne souhaite pas que ses propres salariés manifestent certaines convictions religieuses au risque de heurter la pluralité des croyances de la clientèle de l'entreprise.
Mmh.
Donc, la loi El Khomri, en fait, elle est arrivée après le fameux contentieux de la crèche Babylou.
Oui, oui, je m'en souviens très bien. Oui, oui.
Pour en réalité inscrire dans le Code du travail ce qu'avait dit déjà la Cour de cassation à l'époque, c'est-à-dire qu'il est possible de réglementer dans l'entreprise cette question du port du voile.
Mmh.
Le problème, c'est que toutes les entreprises n'ont pas de règlement intérieur.
Oui.
et que le Parlement est actuellement en train de discuter d'ailleurs une loi qu'on appelle la loi Pacte, qui a d'ailleurs été, je crois, adoptée, et la loi Pacte qui, elle, repousse encore les limites du règlement intérieur à 50 salariés. Alors, il faut savoir que 90% des entreprises françaises n'ont pas de règlement intérieur, enfin ne seront pas soumises à l'obligation de mettre en place un règlement intérieur. Et on revient sur la remarque précédente, c'est-à-dire que les grandes entreprises, et on voit avec Engie, qui est une très grande entreprise, hein, oui. Quatrième fournisseur d'énergie au monde, a les moyens de mettre en place une politique qui respecte la diversité de la société française.
Oui.
Mais c'est vrai que ça ne règle pas la question de ces discriminations à l'embauche ou discriminations de comportement dans des entreprises de moins de 50 salariés. Hein. Je répète, en France, c'est 90% des entreprises qui ont moins de 50 salariés.
Et cela veut dire que 90% des entreprises françaises aujourd'hui peuvent encore prétexter face à Asma le non-port d'un foulard sur les cheveux et l'exiger au risque d'être licencié. Merci beaucoup Asma de nous avoir raconté votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Pour conclure cette émission, nous serons avec Aladin. Il a mis beaucoup de temps à trouver un travail dans sa branche alors qu'il était vraiment très diplômé.
Les témoignages au 39-21 qui nous arrivent. Monique, 48 ans, je suis navigante sur long courrier, je suis une personne de couleur, je n'ai pas les mêmes avantages que mes collègues, notamment sur les logements lors des escales. Et puis Julie, 36 ans, j'ai été discriminée en entretien d'embauche car j'avais un enfant de 4 mois. On m'avait posé des questions sur mon bébé, déduit que j'allais en faire un deuxième dans la foulée. Je ne marque plus sur mon CV que je suis maman.
Oui, parce qu'on a peu évoqué, on a beaucoup parlé des discriminations liées aux origines. Mais on a peu abordé pour l'instant aussi cette discrimination au niveau des femmes enceintes. Et Dieu sait si aujourd'hui cela pèse aussi énormément dans ces discriminations.
Europe 1. Lors d'un entretien d'embauche, pour l'acquisition d'une promotion, lors d'un licenciement, d'une mutation professionnelle, vous avez subi de la discrimination. Vous témoignez au 39-21 sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de la discrimination en entreprise. Comment lutter contre ?
Et nous sommes maintenant, pour conclure cette émission, avec Aladin. Bonjour Aladin, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour à vous.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Aladin ?
Alors, j'ai 37 ans, enfin, je viens de les avoir et je vous appelle de Haute-Savoie.
D'accord. Alors, vous avez eu un diplôme dans le domaine bancaire en 2005.
Alors, en fait, j'ai été diplômé en 2005, mais ce n'était pas de grandes études, comme vous l'avez dit au préalable. Hein. C'était un simple bac plus 2. Hein.
C'est un diplôme, hein. Le bac plus 2.
Oui,
c'est,
bon,
voilà.
C'est pas...
En tout cas, ça permet de rentrer dans le milieu bancaire. Mais avant cela, vous deviez trouver des stages. Et vous aviez l'impression... déjà de peiner plus que les autres à en trouver.
Exactement. Alors en fait, on a, lors de vos études, parfois possibilité d'avoir des stages. Et il est vrai que la plupart du temps, c'était assez compliqué. Je me rappelle d'une anecdote où, une fois, j'étais le dernier ne pas trouver de stage. Au final, j'ai trouvé un stage grâce donc, à une de mes professeurs.
Oui.
Lors de mon stage, je sais plus, genre une semaine ou deux après que le stage ait commencé, ça se passait très très bien. Hein. Je m'entendais très bien donc, avec la personne qui m'a accueilli, et elle m'a révélé, donc sans méchanceté bien évidemment, hein, que la professeure lui avait demandé si on prenait des stagiaires et que j'étais pas complètement français, mais c'était pas péjoratif pour elle, c'était plus pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je pense, entre l'entreprise et l'école.
D'accord. Comment vous avez pris cette remarque qui se voulait allant dans votre sens, mais qui était tout de même un poil maladroite. Qu'est-ce que vous êtes dit ? Est-ce que à ce moment-là, vous vous dites ça va être dur pour la suite ?
Alors, depuis le début, je me suis dit ça va être dur pour la suite, mais c'est quelque chose avec lequel vous apprenez à vivre. Hein. J'insiste très fortement, hein, c'est absolument pas une généralité, c'est pas partout et tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord.
Oui.
Mais la question, c'était est-ce que ça existe ? La réponse est oui. Moi, par rapport à Asma, donc juste avant moi, très clairement, il n'y avait pas autant de rebondissements parce que moi, c'était un peu plus vicieux que ça. C'est-à-dire qu'Asma, elle a quand même eu la chance de se faire embaucher directement et d'avoir des difficultés après. Moi, pour faire court, il n'y a juste quasiment aucune possibilité de prouver qu'ils ne vous prennent pas pour ça.
Mmh.
Alors que quand vous avez des entretiens et que vous savez pertinemment, sans aucun orgueil, sans gonfler plus que ça, que vous n'êtes pas plus mauvais que les autres en tout cas, que vous savez vous exprimer, que vous n'êtes intellectuellement pas plus limité que les autres, et que tout le monde avance et que vous, systématiquement, il y a des blocages, vous vous posez un petit peu des questions.
D'accord. Vous parlez avec un kitman libre, là, ou vous parlez directement dans le téléphone ?
Alors là, je suis dans le téléphone directement,
d'accord,
mais vous m'entendez pas très bien.
Là, c'est mieux comme ça.
Là, c'est mieux, excusez-moi.
Vous avez attendu presque 7 ans avant de trouver un travail. Dans quel état psychologique ça vous a mis, ça, d'attendre 7 ans?
Bah, très honnêtement, c'est vraiment compliqué, mais de l'autre côté, ça vous forge le mental et puis bah, vous apprenez à être encore plus tenace et persévérant que ce que vous avez été tout au long de votre vie. Et puis c'est positif pour la personne. Après, c'est vrai que c'est pas juste parce que quand vous avez, je sais pas, 25 ans, 26 ans, que vous croisez vos collègues et qu'ils vous disent qu'ils ont tous un travail en CDI, qu'ils avancent. Vous, sur le plan personnel, c'est compliqué de se, par exemple, marier, d'investir, sur du matériel de base.
Dans la vie, ouais.
Exactement, on peut pas avancer. Mm-hmm. J'ai été embauché, moi, aujourd'hui, à 29 ans. Et,
29 ans.
C'est quand même compliqué, sachant que j'ai terminé mes études de tête en 2005. J'avais quoi, 22 ans, quoi.
Ouais.
C'est super long.
J'ai envie de vous dire que ça a fini par payer, mais j'ai presque honte de vous dire ça.
Après, pour faire court, moi je cherchais beaucoup dans le domaine bancaire. Entre temps, j'ai quand même fait quelques CDD. On m'a donné ma chance, mais c'était pas ce que je voulais. Malheureusement, vous avez ça et je vous l'aurai toujours, que ce soit donc sur le l'ethnique, le religieux, le social, le sexuel. C'est pas juste, hein. On devrait pas l'accepter, mais malheureusement, c'est comme ça. Bon, il ne faut pas lâcher. Moi, aujourd'hui, je travaille dans une banque qui m'a donné ma chance.
Oui.
Je les remercie. Hein, mm-hmm. Je vous ai cité, d'ailleurs.
Vous faites comme vous voulez.
Ouais, c'est le Crédit Lyonnais. Moi, ils m'ont donné ma chance, donc je les remercie.
Ouais.
Tout se passe très, très bien. Je suis aujourd'hui conseiller clientèle. Je vais bientôt passer, je pense, conseiller pro. Enfin, tous les clients sont très, très, très contents. Voilà, tout va bien.
Mais tout va bien. Bon, eh ben écoutez, moi je suis dans une autre banque, hein, vous voyez, Aladin, et puis le directeur et puis mon conseiller sont l'un d'origine marocaine et l'autre d'origine algérienne. Et vraiment,
tout se passe bien.
Bien évidemment, tout se passe bien. Il serait peut-être temps de réaliser qu'on en est à la 4e ou 5e génération et que, la France est un beau et joli pays composé de multicouleurs et multi-origines. Et on est beaucoup à le penser cet après-midi. Merci beaucoup, Aladin, pour votre témoignage.
Merci
aussi à Manon, à Leïla, à Jolie, à Asma d'avoir pris la parole. Merci à Christophe Radet pour ses analyses, pour ses conseils, pour ses éclairages. On l'a entendu dans vos témoignages, hein, lorsque l'on vit des discriminations, il faut souvent redoubler d'efforts, être tenace et déterminé. Mais la discrimination à l'embauche et en entreprise doit être combattue perpétuellement. Nous le disions, Emmanuel Macron semble vouloir s'emparer du problème en pratiquant le testing dans les entreprises, mais que dans les grandes entreprises pour l'instant, malheureusement, alors que 90% des entreprises ne sont pas obligées d'être sous cette loi. Vous pouvez aussi vous-même signaler des actes anormaux. Si vous avez été victime de discrimination, n'hésitez pas à prendre contact avec le défenseur des droits au travail au 09 69 39 00 00. Je répète le numéro 09 69 39 00 00 ou sur leur site internet. Vous pouvez aussi en parler sur nos réseaux sociaux.
Oui, comme Ninola sur Twitter, hashtag Europe 1, qui nous dit: un responsable a dit derrière mon dos, vu le chiffre d'affaires qu'elle fait, je la croyais beaucoup plus jolie. Twitter, hashtag Europe 1, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas à continuer d'échanger entre vous. Cette émission continue grâce à vous.
Europe 1.
Et pour contrebalancer à tout ce que nous venons de dire dans cette émission, oui, je parle surtout des employeurs qui pratiquent cette discrimination, et bien demain nous parlerons ensemble de la gentillesse. Pourquoi est-elle perçue comme une faiblesse? Faut-il la revendiquer, cette gentillesse? Alors si l'on se joue de votre gentillesse, si cela vous apporte préjudice au travail ou dans votre vie personnel, si vous prenez la bienveillance en entreprise, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire et nous serons là pour vous répondre. Ma chère Ambline, j'étais ravi de passer cette heure avec vous.